Radio Libertaire, alors, c'est l'émission Chronique Hebdo. Et puis, eh bien, nous avons eu une longue séquence avec John Coltrane, anthologie, ça s'appelle. Et donc, on en aura d'autres ce matin, pendant que vous pouvez appeler, pendant les périodes où vous pouvez appeler, période musicale, le studio, puisque ce matin, beaucoup d'appels d'auditeurs, c'est très bien. Réaction, évidemment, à ce qui peut se passer aux États-Unis et puis dans l'ensemble, ce que ça peut vouloir dire, hein, pour l'ensemble, évidemment, de la planète, puisque c'est quand même, il faut quand même le rappeler, c'est le modèle, hein, pour certains, hein, vous le savez, et puis aussi la puissance de feu. C'est quand même toujours les États-Unis, hein, sur les armes. Là, je vous en parlerai peut-être aussi au Texas, dans les universités. Eh bien, le port d'armes est autorisé. Hein. Donc, le western, c'est le western un petit peu partout. Et là aussi, c'est inscrit dans leur deuxième amendement. Hein. Bon, ça date un petit peu, évidemment, vous le savez. Et c'est quand même repris. C'est des choses auxquelles, là encore, une culture, j'en ai déjà parlé dans cette émission, peut imprégner, peut formater. Hein, vous le savez, c'est pas un scoop, c'est pas une nouveauté, mais souvent on oublie un peu ça. Hein, on oublie un peu que la culture dans laquelle on baigne, à un moment donné de l'histoire où on peut naître, la société que l'on subit, les gens qui sont autour de vous, le système de formation, d'éducation, sans parler d'instruction, eh bien forcément une importance sur le comportement des personnes et puis sa propre histoire, hein, aussi, histoire récente pour les États-Unis, tout ce qu'ils ont pu faire, et puis rappeler aussi que c'est le gendarme, hein, qui est là pour intervenir dans tout un tas de coups d'État, de tout un tas de coups tordus, et je vous l'avais rappelé la semaine dernière avec une déclaration de Monsieur de Villepin, dernièrement, hein, faisant porter la responsabilité, évidemment, du terrorisme, comme on a pu le subir dans Europe, avec pour origine, évidemment, les conflits, le conflit allumé donc en Irak par Bush senior, Bush junior, eh bien les conséquences après sur l'ensemble de la destruction des pays, et tout ça évidemment pour la défense de la liberté, vous le savez, et pas simplement les intérêts du pétrole, de la domination, ou aussi des intérêts d'alliés des États-Unis qu'il faut à tout prix défendre contre d'autres pays qui ne sont pas évidemment des exemples, qui sont aussi quelquefois et souvent des pays autoritaires, des pays totalitaires, mais on rajoute peut-être en faisant la guerre, de la guerre à la guerre. Et les États-Unis sont des experts, hein, quand on a rappelé aussi, que les gens ont un peu oublié, l'entraînement sur les populations in vivo avec le nucléaire à Nagasaki et Hiroshima pour le Japon. Ne l'oublions jamais. Hein. C'est un petit peu justement ce qui est fait par l'ensemble des appareils de propagande, de nous faire oublier tout ça et simplement nous montrer les grandes réussites. Dans quel domaine, je ne sais pas. Venant des États-Unis, on pourrait dire la technologie, puisque on en parlait avec une auditrice. Alors, on a entendu, eh bien, John Coltrane, et puis auparavant, eh bien, des chansons qu'on n'entend pas souvent, hein, je vous en doutez, c'est Albert Préjean, c'était les années 30, là aussi, après la crise de 29, la crise est fini. Et puis, comme slogan, eh bien, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, hein? Eh bien, amusons-nous, amusez-vous. Alors, ça, c'était Albert Préjean. Peut-être on reviendra sur quelques chansons. Et puis aussi, eh bien, vous avez entendu, c'est une première aussi, une déclaration. Hein, il y en a eu plusieurs, mais là, de Donald Duck, hein, évidemment, le cousin ou le neveu de Donald Trump, hein, comme je vous avais dit, ou le troisième larron de l'histoire, Donald Tusk, qui est le président du Conseil européen. Alors, Il faut pas prendre les enfants du beau Dieu pour des canards sauvages, nous avait dit, vous le savez, Michel Audiard. Alors ce matin, je vous avais dit, pour les informations, de revenir en particulier sur quelque chose qui a eu lieu lundi dernier. Lundi, à propos il y avait pour Notre-Dame-des-Landes, justement, au tribunal administratif, donc la rapporteuse publique, Christine Pilletan, qui est intervenue et d'une certaine manière a donné, on verra bien, un coup d'arrêt, peut-être définitif, à la construction de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Alors, je voulais revenir un petit peu sur le sujet, rapidement, quand on avait eu le résultat de ce qui s'était passé au tribunal administratif de Nantes, sachant que Christine Pilletan avait déclaré que dès l'ouverture de l'audience, elle avait dit, les personnes qui pensent que le rapporteur public peut être influencé par le gouvernement ou recevoir des consignes connaissent bien mal la justice. Elle avait dit ça. Alors à vous de savoir, à vous de vous faire une idée dans ce qu'elle dit. Est-ce que c'est quelque chose, une déclaration qui est à prendre évidemment au premier degré, ou est-ce une déclaration à prendre au troisième, au quatrième degré, je ne sais pas à quel degré la prendre, en tout cas de lui dire chiche, est-ce que un gouvernement ou les ministres ne peuvent pas influencer la justice? Vous vous en doutez bien comment ça peut se passer dans cette société, en rappelant à chaque fois, on pourrait lui rappeler que vous soyez la fameuse formule de La Fontaine, que vous soyez puissant ou misérable, que vous êtes puissant ou misérables, les juges des cours vous feront blanc ou noir. Alors dans tout un tas de domaines, on peut penser que là c'est au premier degré et qu'il n'y aura pas d'intervention et que finalement, les quatre arrêtés seront définitivement rejetés par la cour d'appel. Alors il reste des recours, c'est pour ça qu'il faut faire attention. Et dans cette argumentation, plusieurs choses évidemment, puisque la protection de la nature, la biodiversité, le milieu aquatique, comme nulle part ailleurs, en tout cas, enfin peu d'endroits pour la région de Notre-Dame-des-Landes. Alors ce qui est souligné, si on faisait un aéroport, puisque l'intervention de cette rapportrice, je veux dire ça au féminin, publique, ou la rapporteuse, public, Christine Pilletan, ça a duré 4h30. Alors il s'est dit quand même pas mal de choses. Et on a évoqué évidemment la protection des espèces, puisque là aussi c'est les autres, je dirais un petit peu abrutis des ailes de l'Ouest. Une association qui défend évidemment qui défend le projet, puisqu'il y a eu une contre-manifestation où ça a dû se passer le 5 novembre. Les pro-aéroports ont déposé symboliquement devant la préfecture les 270 000 bulletins des électeurs favorables à la construction du nouvel aéroport. Alors là, on rigole un peu, parce qu'ils ont tous dit, évidemment, encore une escroquerie, comme toujours, puisque c'est organisé par l'État. Eh bien, d'en se tenir déjà à la Loire-Atlantique, simplement, alors qu'on parle de Grand Ouest, donc d'autres départements auraient pu voter dans leur logique à eux, c'est pas la nôtre. Et ce qu'on oublie de dire, ils l'ont pas dit, les menteurs, par rapport à ça, parce qu'ils disaient que 54% de oui, mais dans ces 54% de oui, il faut les relativiser l'affaire, puisqu'il y aurait eu plus de 50% de gens qui auraient refusé, pas simplement qui s'en foutaient, mais se refusaient de participer en pensant que c'était quand même une escroquerie, comme je dis, de dire voter, pas voter, de fait comme des rats, toujours est-il, puisque la votation est organisée par évidemment le directeur du casino, donc c'est toujours le joueur qui est perdant. Donc le joueur perdant, si on reprend le fait de ce résultat de 55% de voix favorables au transfert de l'aéroport, eh bien, on s'aperçoit que sur 50% d'abstention, eh bien, ça fait à peu près un petit peu plus, 25-26% de gens qui sont favorables au transfert de cet aéroport. Alors, 26%, hein, sur 100% d'électeurs, et c'est pas les inscrits, et c'est pas la totalité des gens qui ont refusé de s'inscrire, et c'est pas représentatif, évidemment, de tous ceux qui ne sont pas inscrits et de l'ensemble de la population, ben ça fait pas beaucoup. Hein, ça fait à peu près 15%, et 15%, ils sautent comme des cabris partout en disant, regardez, c'est démocratique, les gens ont voté, et la majorité, on l'a remporté avec 55% des voix. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure à l'auditeur, à chaque fois, c'est une arnaque, c'est une escroquerie de la manière dont c'est organisé, hein, puisque maintenant, vous savez, quelquefois, ils sont élus avec des scores, quand c'est des remplacements de députés, il y a 10% ou 5% de gens qui se sont déplacés, et puis ils disent, on les représente le peuple. Hein. On est là et on représente le peuple. Alors, arnaque, escroquerie, et c'est de plus en plus visible, et je pense que justement, et c'est de plus en plus visible, puisque ça a toujours été comme ça, et donc, c'est à vous de voir, évidemment, hein, puisque pour les anarchistes, ils l'ont vu depuis très longtemps, c'est pas tellement compliqué, hein. Je rappelais Élisée Reclus, voter c'est abdiquer, ça demeure, ou tout à l'heure je vous parlais de l'électeur qui est un criminel, alors rien que pour ça, dans leur propre logique, les menteurs, et surtout les plateaux télé, ils disaient, c'est démocratique, les gens ont voté, c'est pour le oui, il faut le transférer. Et alors apparemment, ça marche pas, hein. Ça marche pas, et pour ce qui concerne donc Notre-Dame-des-Landes, j'avais dit juste un petit peu que le manuel pourrait aller valser, hein, avec la Hollandie, même si Madame Royal apparemment a pris des distances et a marqué son opposition à la construction ou transfert de cet aéroport de Nantes. Le rapporteur public a donc demandé l'annulation des travaux et le constat, c'est que l'avis est généralement suivi à peu près à 90%, hein, faut méfier les 10% là encore, dans ces systèmes. Eh bien, l'avis du rapporteur public est suivi par les juges. Et donc, ça voudrait dire que la construction, enfin en tout cas, pour ce qui concerne le fait de dégager, comme avait dit Monsieur Valls, hein, le valsificateur, d'intervenir, là, c'est pas prêt de se faire. Moi, il me semble, on l'avait dit, hein, déjà, ça se passerait mal, hein, puisque certains ont dit, oh, comment ça, 200 zadis, c'est pas eux qui vont faire la loi dans ce pays, hein, mais on s'en doute un petit peu. Nous, on est pour la démocratie. Alors, simplement, la rapportrice, comme je dis, avait posé deux bonnes questions. Peut-on vivre sans aéroport idéal? Eh bien, la réponse est oui. Peut-on vivre sans eau? La réponse est non. Et j'avais rajouté, l'alcool, non, mais l'eau ferrugineuse, oui. Alors, à suivre, évidemment, puisque, logiquement, on devrait savoir très bientôt, hein, dans quelques jours, le résultat, c'est-à-dire les juges devraient suivre l'avis de la rapporteuse ou la rapporteur, ou le rapporteur public, pour ce qui concerne évidemment la construction, en tout cas la construction pour le moment ça sera arrêté, et donc faisons attention puisque Sylvain Fresneau, agriculteur et opposant historique au projet, hein, donc il confiait, il disait dernièrement, le gouvernement va aller en cassation, hein, on s'en doute, pour ne pas perdre la face. Et voilà ce qu'il rajoutait, et ça c'est important. Je vois mal Jean-Marc le héros, le zéro, donc abandonné. Celui-là, hein. Celui-là qui il aurait dû fuir dans son camping-car, quand on le voit intervenir, le malheureux, aux questions au gouvernement, à la Chambre des députés, avec sa face de lune, hein, visage lunaire, il est quand même ministre des Affaires très étranges, très étrangères, Monsieur Hérault, hein, il s'ennuyait, il savait pas quoi faire, ils savent pas quoi faire une fois qu'ils ont arrêté. Hein. C'est-à-dire que eux, ils ont, le politicien, il doit nuire jusqu'au bout. Hein. Puisque d'abord, il est indispensable, hein, Monsieur Jean-Marc Hérault, il est indispensable, évidemment, à la société pour qu'elle aille très mal. Alors donc, là aussi, eh bien, lui, il voit mal parce que lui, le teigneux, hein, c'est comme ça, c'est son honneur. Hein, l'honneur, évidemment, des politiciens. Donc, je dirais aussi, malheureusement, espèces protégées, hein, tout en espèces, hein, tout ce qu'ils peuvent piquer, tout ce qu'ils peuvent gagner sur la collectivité publique, hein, tout le pognon qu'ils peuvent vous prendre, hein, pour être payé évidemment grassement, ministre, député, sénateur, enfin tous les postes importants, hein, toutes les gratifications qu'ils peuvent avoir, comme avait dit Marie-Georges Buffet, rien n'est trop beau pour les représentants du peuple, hein, rien n'est trop beau, hein, ben voilà, on les voit, hein, les représentants du peuple. Marie-Georges Buffet, alors donc avec le parti communiste français, je le rappelle, qui va peut-être se ramasser une galtouze, hein, bon, la mort est assez angoissante, hein, elle perdure, ça fait plusieurs années, donc là peut-être 2-3%, et il s'inquiète quand même par rapport peut-être les élections prochaines, où tous leurs pitres représentants députés qui font de la figuration, évidemment, dans ce Parlement croupion, eh bien, pourraient aller valdinguer. Mais ça les emmerde, hein, parce que les sous qu'ils peuvent avoir, quand même, la place est bonne. Hein. C'est la lutte des places, vous le savez, c'est pas la lutte des classes. Hein, mais pour le moment, on la voit pas trop. Et donc, dans cette lutte des places, eh bien, eux, ils veulent rester. Alors, il y en a des bons. C'est vrai que Monsieur Hérault, il faut faire très attention. Et le lundi dernier, je vous le rappelle, pendant que ça se déroulait au tribunal de Nantes, eh bien, le falsificateur, il n'avait pas dit son dernier mot. Hein. Pendant ce temps-là, un comité de pilotage, hein, représentant les collectivités finançant le projet avec notre pognon, des représentants consulaires, c'est pas rien, hein, consulaires, rien que ça, bonjour, entrez, à vous de voir, et le concessionnaire de Vinci, eh bien, étaient rassemblés, ils sont venus tous là pour faire un point sur le projet de transfert de l'aéroport de Nantes vers Notre-Dame-des-Langues. Des Landes et des Langues, oui. J'ai dit mauvaise langue, hein, que tout cela. Eh bien, l'occasion de rappeler les engagements pris par l'État. Alors, je vous le rappelle, hein, l'État, simple instrument de force, étranger à toute idée morale, monstre froid, c'est rien d'autre, hein, mais au service, évidemment, de ceux des milliardaires, hein, comme ça vient de se passer aux États-Unis. Les choses sont plus claires, hein, évidemment, bon, pour ce qu'on a comme en magasin pour la prochaine pantalonnade électorale. Alors, je vous le disais, donc il y a eu ça le 5 novembre, hein, et puis le 10 novembre, eh bien, ce sera au tour, hein, c'est bientôt, puisque c'est aujourd'hui, des opposants de manifester, alors à suivre, hein, les organisations d'agriculteurs hostiles au projet. Alors, c'est assez amusant, hein, ça s'appelle Opération Tracteur Vigilant. Alors, il faut être vigilant, hein, ne vous suicidez pas, hein, parce que je le rappelais quand même, tous les deux jours, hein, un agriculteur se suicide en France, hein, donc restez quand même vigilants, hein, il vaut mieux aller se battre pour protéger justement la ZAD, hein, donc il y a d'autres choses à faire évidemment que se suicider, peut-être les victimes d'un ordre inique, les victimes du capitaliste à utiliser peut-être la violence, ne pas la retourner contre eux, mais la retourner contre ceux qui en sont les initiateurs, hein, ça serait peut-être plus intéressant, et en tout cas, donc, ces tracteurs vigilants, eh bien, on va voir ce qu'ils vont faire aujourd'hui, ou tout du moins rappeler, comme l'a indiqué aussi donc un chercheur, hein, du CNRS, alors c'est sérieux si c'est un chercheur, Luc Brohan, donc de Nantes, et rappelle, comme pour avec il a sorti cinq thèses pas 4, de doctorats consacrés au traitement des sols argileux par liant hydraulique. Alors, pour durcir le sol argileux, ils vont mettre, et humide de la zone de Notre-Dame-des-Landes, Vinci devrait mettre un traitement de liant hydraulique. C'est de la chaux et de mélange de ciment. Et la présence d'eau dans le sol traité finira par annihiler tous les effets du traitement dans un délai rapide. La piste va donc s'affaisser. Alors donc les avions pourront pas décoller, ils vont se planter. Alors c'est quelque chose de formidable. Et puis aussi rappeler que bon, ça a été évoqué par Christine Pilton, je vous le rappelle, rapporteur public, donc lundi dernier, des tonnes de sel déversées sur les pistes, c'est ça pour les aéroports, pour lutter contre le verglas, et les produits chimiques qui seraient pulvérisés pour le dégivrage des avions. Ça a lieu partout, ça a lieu évidemment sur les Charles de Gaulle, pour ce qui est de l'Île-de-France, et puis d'autres à Orly. Voilà ce que l'on met un peu partout, et tout ça, ça fout le camp dans les eaux de bassin, et ça pollue évidemment toute la zone, et en particulier cette zone absolument à défendre, et qui est symbolique de le refus du capitalisme, de la destruction de la planète. Et je pense que les gens qui se battent, qui se sont battus, qui continueront à se battre pour la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, eh bien, ne sont pas prêts de lâcher. Et d'autres gens ne sont pas prêts de lâcher l'affaire en voyant que la résistance, puisque c'est actualité la résistance, c'est pas comme tous ces pitres historiens nous dire « Ah ben, vous rendez compte, là, ils sont bien battus ». C'était dans les années 40, la résistance, pour les enfants, comme je vous avais parlé, pour les élèves des écoles de la République la semaine dernière, ils n'avaient pas entendu parler de la résistance actuelle. Ça, ils ne savent pas, la résistance actuelle. Et donc, la résistance actuelle, elle existe bien. Et donc, tous ceux qui se battent, évidemment, contre la toxicité, la perversité du capitalisme, et tous ceux qui sont à son service, eh bien, font des actes de résistance. Et ça, évidemment, c'est très important. Et certains plus jeunes ou d'autres personnes qui ne savent pas trop le sens de leur propre vie, bah, peuvent peut-être prendre conscience, comme je disais des auditeurs tout à l'heure, que la politique, ou le fait de s'engager, et plus que s'engager, de vivre, la révolte c'est la vie, comme disait Albert Camus, pour l'autre qui nous avait parlé d'Albert Camus, eh bien, au lieu de la votation, comme tous ces couillons, évidemment, aux États-Unis, acte de résistance, se mettent à réfléchir et refusent évidemment de se soumettre à cet ordre établi et à tous ces représentants milliardaires et qui ont à leur service évidemment les forces brutales, les forces de sécurité, les armées. Et avec, évidemment, un peu et beaucoup même les religions, pour continuer, évidemment, sur l'ensemble de la planète, comme on dit, cette destruction, puisque je vous parle de Notre-Dame-des-Landes, destruction écologique, qui est la destruction, évidemment, de l'espèce humaine et des espèces animales, et je vous le rappelle souvent, nous en faisons partie. Voilà, vous êtes sur Radio Libertaire, c'est l'émission Chronique Hebdo, numéro du studio, le 01 43 71 89 40.
Il y a deux poissons dans mon étang, ça va nageant, ça vit content. Ça se croise par-ci, par-là, un petit salut, un petit ça va. Deux tout jolis mignons poissons qui ont tout plein de place pour s'ébattre. Si bien qu'ils se sont dit, croissons, le lendemain, ils étaient quatre. Il y y a quatre poissons dans mon étang. On se voit de loin, mais plus souvent. Dessous les feuilles des nénuphars ou quand on prend le frais le soir. Ma chère, comment allez-vous? Et les enfants, ça viendra vite. Plus tard, ils prendront soin de nous. Le lendemain, ils étaient 8. Il y a 8 poissons dans mon étang qui remuent la queue en gigotant. C'est pas encore un club de foot, mais ça fait du monde qui glougloute et qui zigzague joyeux foutoir. Les maigrichons frôlent les balaises que chatouillent les petits rigolards. Le lendemain, ils étaient 16. Il y a 16 poissons dans mon étang qui chassent les mouches et les vers blancs. Ça gobe, ça croque et ça avale. C'est des gloutons, c'est des morphales. On aurait tort de se priver de la graille. Il y en a tant qu'on veut. Il n'y a qu'à se servir, il n'y a qu'à se parfait. Le lendemain, c'était 32. Sont 512 quelques jours plus tard. Commence à y avoir un écart entre quelques rares poissons nantis et la masse des plus petits. C'est la nature et ses lois, disent d'éminents poissons savants. Certains ont des besoins plus grands, d'autres mérites ou d'autres droits. On pourrait penser qu'au moment où il se trouve plus de 1000 dans l'étang, bien qu'ils aient pas inventé l'eau tiède, il se trouve un poisson qui plaide pour qu'on réfléchisse un petit peu. Il y a moins de plancton, moins d'asticots, mais réfléchir, mon bon monsieur, c'est trop demander à ces bestiaux. Lève-la 8000 des poussières dans mon étang et ça se serre, mais sans s'inquiéter pour autant, la poiscaille, ça vit au présent. Changer d'art de vivre, jamais, il n'y a pas d'autre route. Et d'ailleurs, celui qui ne croit pas au progrès, qu'il aille se faire pêcher ailleurs. Combien sont-ils? On ne sait pas. Un tas, une foule, un magma qui remplit quasi tous les temps et qui se dit, et maintenant, eh bien, amis, croissons, croissons, on fait ça depuis la nuit des temps. Il n'y a que ça qui est vrai, il n'y a que ça qui est bon. Hardi, haut les cœurs, en avant! Il n'y a plus de poissons, il n'y a plus d'étang, rien qu'un gros trou un peu puant, où même les chats ne rôdent plus, ou alors ceux qui se sont perdus. Plus de papillons, plus de roseaux, plus de libellules jouant sur l'eau. Si vous voulez mon opinion, les poissons sont des cons.
Thank you. Thank you.
Radio Libertaire, l'émission Chronique Hebdo reprend. Alors, je vais vous donner deux informations. Vous savez que c'est jusqu'à midi, donc une petite demi-heure. Donc, je vous ai dit un sujet. Je vous parlais un peu de la Corée du Sud pour voir que c'est la même chose. Hein, la Corée du Sud a perdu le Nord. Avec un scandale d'État, enfin bon, ça ne peut être qu'autre chose, état de scandale. Et avant, je voulais vous donner ces informations concernant le colloque annuel de la société Pierre-Joseph Proudhon. Et donc, il aura lieu, alors on a un petit peu de temps pour vous y préparer, vous avez juste un mois, c'est le 10 décembre, donc là c'est le 10 novembre aujourd'hui, demain vous savez ce que c'est, voilà aussi, bon on en parlera là, peut-être dans les mois qui viennent, puisque ça fait le centenaire de la grande boucherie, du grand massacre. Là aussi, il fallait se foutre sur la gueule, et surtout les pauvres, évidemment, pendant que les autres, restaient un petit peu au chaud. C'est comme ça, et puis ils avaient très peur, évidemment, du mouvement social du début du XXe siècle, et donc que des nations, que des États se foutent sur la gueule, ça pouvait calmer l'ensemble des populations de vouloir en découdre, évidemment, avec l'ordre injuste, inique, inégalitaire, qui existait donc au début du XXe siècle. Alors, peut-être qu'on en parlera, ça sera peut-être abordé dans ce colloque annuel de la société Pierre-Joseph Proudhon. Je vous le rappelle, on le cite souvent dans cette émission, Pierre-Joseph Proudhon a été plusieurs fois, à l'époque, Jacques, puis vous le savez qui est disparu, décédé, participait à ce colloque qui avait lieu une fois par an, du coup peut-être au mois de novembre, au mois de décembre, à peu près à cette période. Et donc c'est fini sur Paris c'est fini, ça coûtait trop cher à la location des salles. Donc là ça aura lieu. Il y a eu un autre colloque où je suis allé donc en Seine-Saint-Denis il y a 2 ans, et celui-là ou trois. Et celui-là aura lieu à l'université de Caen, en Normandie, campus 1, donc le samedi 10 décembre 2016, de 9h à 17h, avec pour thème Proudhon et l'autonomie du social. Proudhon et l'autonomie du social, donc je vous le rappellerai pour nos amis évidemment de Normandie, mais d'ailleurs, ou des gens qui veulent aller, c'est pas trop loin, donc parce que c'est des conditions évidemment de prêt de salle. Là, il n'y a pas de pognon pour les associations, vous savez, les associations qui réfléchissent, les associations qui essaie de survivre et qui essaie d'éclairer, d'allumer un petit peu ce qu'il y a dans la tête des gens, là, il n'y a pas de pognon, donc on est obligé d'aller se rabattre. Sur l'université de Caen, c'est aussi une bonne chose, parce qu'il n'y a pas de raison non plus que ça se passe donc dans la ville des Lumières. Donc, dans la capitale, donc aussi. Alors, je vous le rappelle, samedi 10 décembre, Campus 1, Université de Caen, donc colloque annuel de la société Pierre-Joseph Proudhon. Proudhon et l'autonomie du social, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, de revoir un petit peu le vol, la propriété c'est le vol, la propriété qu'est-ce que ça veut dire, c'est plus que ça, c'est un crime, Proudhon nous dit, dans mon texte d'introduction, si je vous parle de l'esclavage, comme c'est un crime, c'est un meurtre, vous saurez tous ce que c'est. En revanche, si je vous dis que la propriété, c'est un vol, c'est le vol, je vais mettre quelques dizaines, centaines de pages pour vous l'expliquer. Et donc, évidemment, on est en plein dedans, la société capitaliste, c'est le vol, c'est le crime. Donc, l'intérêt de relire, de revoir, les textes, et en particulier donc l'intérêt que pour on peut avoir après, vous savez, donc les comptes rendus, pour ceux qui ne pourront pas s'y rendre, s'ils le souhaitaient, comptes rendus de ces colloques. Alors, autre information, c'est d'actualité, puisque là c'est samedi prochain, c'est sur Paris, région parisienne, je vous en ai déjà parlé, l'actualité du surréalisme et la projection samedi 12 novembre à 15h30, entrée libre, c'est donc l'auditorium de la Halle Saint-Pierre, hein, je vous le rappelle, la Halle Saint-Pierre, 2 rue Ronsard, Paris 18e, 2 rue Ronsard, Paris 18e, à 15h30, Benjamin Perret, poète, c'est-à-dire révolutionnaire. Hein, donc, actualité du surréalisme, alors c'est un thème hein, pour la Halle Saint-Pierre, donc il y aura plusieurs jours de débats ou de propositions autour de l'actualité, de projections de conférences autour de l'actualité du surréalisme. Et là, pour samedi prochain, vous aurez la projection du film de Rémy Ricordo. Rémy Ricordo, vous connaissez, hein, je vous en ai déjà parlé, il est venu aussi dans cette émission pour parler de l'art brut à Taïwan, et puis des films hein, de Rémy Ricordo que vous pouvez trouver. Alors ça tombe bien, 145 rue Amelot, Paris 11e, hein, la librairie Publico qui est ouverte tous les jours sauf le lundi. Et donc vous pourrez trouver les films de Rémy Ricordo, et en particulier celui-là, « Je ne mange pas de ce pain-là », Benjamin Perret, poète, c'est-à-dire révolutionnaire, hein, donc c'est un film d'une durée de 90 minutes. Alors, il y aura ce samedi à la Halle Saint-Pierre, à partir de 15h30, le mieux peut-être c'est de leur téléphoner, hein. Vous faites la Halle Saint-Pierre, vous aurez le téléphone hein, tout de suite, c'est simple à faire et peut-être de réserver, c'est mieux si vous venez d'assez loin. En présence du réalisateur, c'est-à-dire de Rémy Ricordo, d'Alain Joubert, écrivain et ami de Benjamin Perret, et donc de Barthélémy Schwartz, auteur, hein, ça est sorti aussi, c'est peut-être à Publico, de Benjamin Perret, L'astre noir du surréalisme, édition Libertalia, et de Dominique Calmé, qui animera la rencontre, hein, voilà. Donc, je vous encourage à aller revoir, voir ce film si vous l'avez pas, et aussi le DVD est en vente à la librairie Publico. Alors, qu'est-ce qu'on y dit ? Eh ben, simplement, je vais vous lire quelques lignes. Hein, c'est intéressant après le début de l'émission consacrée à tous ces crétins. Bien que Benjamin Perret ait été avec André Breton un des principaux animateurs du mouvement surréaliste, il reste méconnu d'une bonne partie du public. Ce film propose de le redécouvrir dans ses engagements poétiques et politiques au sein d'une aventure intellectuelle collective. Sa vie, comme celle d'André Breton, fut vouée à la poésie, l'amour et la liberté. Il a également fait sien le propos d'André Breton, transformer le monde, a dit Marx, changer la vie, a dit Rimbaud, ces deux mots d'ordre, pour nous, n'en font qu'un, novateur dans sa démarche poétique autant que dans sa réflexion politique, les fulgurances dont il a nourri son œuvre demeurent aujourd'hui d'une brûlante actualité. Voilà pour ce qui est de Benjamin Perret, et donc de cette proposition formidable pour samedi prochain à la Halle Saint-Pierre. Alors aussi, bah, je vais vous parler de choses moins brillantes, hein, tout de suite, je vous l'ai dit, hein, tous ces états dans un sale état, piteux état, donc la Corée du Sud vers le Nord, et donc là aussi, scandale d'état secoue la Corée du Sud. On en parle moins hein, quand il s'agit de la Corée du Nord, ils s'affolent tous, évidemment. Et puis, pour la Corée du Sud, c'est la démocratie. Hein. Alors, donc, ils ont voté. Et puis après, donc, ils se retrouvent évidemment avec bon, c'est la suite. Hein. La défiance à la gare de la présidente Park, elle s'appelle, se propage dans le pays. C'est une femme, hein, c'est pas Clinton. C'est la présidente Park qui se propage dans le pays après l'arrestation de sa confidente. Alors sa confidente, bah, elle est embringuée dans une secte. Hein. Et puis finalement, elle s'appelle Choi Soon-sil. Alors un petit jeu de mots. La corruption, donc on a fait le bon choix, hein, pour ce qui concerne la Corée du Sud, ils ont fait le bon choix. Alors cette confidente, bah, elle a un peu honte, hein, donc on l'a vu une photo dissimulée sous son chapeau noir à l'arrivée au bureau des procureurs de Séoul, c'était le lundi 31 octobre. Alors, c'était une confidente influente, et puis qui a détourné, évidemment, bon, là, on s'en doute, enfin, c'est toujours la même chose beaucoup de pognon. Alors, elle se dit au bord du suicide. Bon, on peut l'encourager, hein, c'est pas gênant, hein, de manière, une sorte de lucidité. Mais n'ayez aucune crainte, elle ne le fera pas. Et donc, elle avait hésité à rentrer de Francfort, où elle avait fui après des révélations. En Allemagne, elle serait propriétaire d'un hôtel et de plusieurs maisons, je vous dis que ça, c'est toujours la même chose, voire d'un haras pour sa fille, elle aime bien sa fille, qu'elle rêve de voir gagner une médaille d'or d'équitation au JO de Tokyo en 2020. Quoi de plus humain, hein? Bon, par rapport à ça, c'est humain, ça, on la comprend, hein, tous les gens peuvent comprendre ça. Alors, ex-conseiller de l'ancien président progressiste Kim, ils disent bien progressiste, Dajun, qui fut dans les années 60-70 le premier opposant au dictateur alors en place, hein, voilà, Park Chung-hee, père de l'actuelle présidente. Hein. Il est père de l'actuelle présidente, je dis c'est partout, c'est en famille, hein, puisque là, on essayait de voir que les Clinton et les Trump, ils ont fait des trucs ensemble, hein, je sais pas, pour le mariage du Trump, le dernier, la Clinton, enfin la famille était là, et puis les enfants Clinton et les enfants Trump, bras dessous, enfin ils se voient, enfin c'est logique, hein, puisque c'est comme ça que ça se passe. Donc voilà pour la même chose, hein, là-bas, ils ont changé un peu le nom des acteurs. Mais c'est la même pièce de théâtre, hein. C'est la même pièce, c'est le même scénario, à peu près partout pareil, c'est à peu près pareil ici, hein. Alors évidemment avec les petites différences, hein, qui fait l'intérêt justement des téléfilms, hein, que l'on peut faire après. Alors, cote de popularité, elle en a pris un coup, a plongé à 9%, mais enfin elle est quand même au-dessus quand même du Hollandais, hein, paraît-il 4% ici, donc un peu mieux faire, et là aussi... Qui était cette brave femme, donc, qui va mal, confidente, et puis qui a, bon, scandale, détournement de pognon. Elle était fille d'un gourou, et donc elle a joué un rôle important dans la carrière de Madame Park. Alors, là aussi, c'est amusant, le père de celle qui est en délicatesse, là, il était surnommé le Rasputin coréen, l'homme et le gourou d'une secte appelée, alors, l'église de la vie éternelle. Je vous en parlais après de la curaille, l'église de la vie éternelle, rien que ça, donc ils s'inquiètent tous, hein. Et là aussi, il aurait eu pour influence de pouvoir contrôler le corps et l'esprit de Madame Park, hein, formidable pour la confidente, donc elle l'avait mis sous influence. Là aussi, vous voyez le niveau, hein, de capacité, et là aussi tout ça, excellent électeur, des élections libres. C'est la différence avec la Corée du Nord, vous savez, la Corée du Sud. Donc voilà pour le résultat tel qu'il peut être brillant. Alors, je voulais rapidement, hein, vous parler de cette affaire-là pour vous montrer que c'est exactement la même chose et qu'encore une fois, bon, toutes ces élections, tous ces personnages sont des voyous, des escrocs et que les électeurs, comme d'hab, se font abuser. Alors rapidement aussi comme information, vous avez peut-être vu la France menacer la métropole emploi, je vous avais dit la semaine dernière, menacée de coupure d'électricité. Cet hiver, il y a près d'un tiers des réacteurs nucléaires, 54 hein, sur 54, qui sont à l'arrêt. Hein, bon, parce que ça va pas bien, ils vont pas bien, ils sont dangereux, donc ils sont arrêtés. Il y a un risque, hein, pour cet hiver, évidemment, de coupure d'électricité, ou même, assez drôle, assez comique, que EDF rachèterait de l'argent, enfin Engie, enfin tous les faux noms, rachèterait donc de l'électricité à des coûts de 45 euros pour le revendre à 90, et donc pour ou le rachat ou l'inverse, hein, par rapport à ça, puisque les engagements qu'elle avait eu, obligée de racheter de l'électricité que EDF avait justement donné à d'autres fournisseurs d'électricité, enfin ça c'est tout le trafic, je vous dis, la vol, corruption du système capitaliste. Et là aussi, les centrales nucléaires vont peut-être s'arrêter d'elles-mêmes, hein, pour le mouvement anti-nucléaire. Voilà une chose intéressante. Et donc, comme elles vont pas très bien, elles sont pas très bien en forme, hein, puisqu'il est question de leur prolonger une durée de vie de 40, 50, même à 60 ans, la retraite à 60 ans, avec tous les dangers que ça implique. Alors ça, c'est une nouvelle importante, hein, je vous l'ai dit. Vous verrez, il y a un article dans le Canard enchaîné. Le Canard enchaîné, brillamment, hein, qui a fait son mea culpa, enfin je ne sais pas, mais là il pouvait pas nous donner les résultats. Et dans l'éditorial, Monsieur Éric Empaze, eh bien, il en pinçait pour la Clinton. Hein, c'est bien sûr pourquoi nous espérons et voulons croire que les électeurs américains, états-uniens, auront fait le bon choix, hein, bon choix mesdames, bon choix messieurs, Éric Empaze, et voté Hillary, même s'ils l'ont fait un mardi. Alors on se désole, pour différentes raisons, ça a lieu le mardi, hein, aux États-Unis, parce que le dimanche ils peuvent pas, c'était la messe, enfin au milieu du XVIIIe siècle, fallait permettre aux paysans de venir aller voter, donc ils se déplaçaient le lundi et votaient le mardi. Mais là on voit bien le canard enchaîné, à chaque fois qu'il y a des élections, hein, il est là, il prend parti, hein. Il prend parti, il est indépendant, il paraît, et donc il prend parti pour le système. Hein. Le système, il n'y a rien de mieux. Faut que ça continue, hein. Donc bah, c'est un peu son fonds de commerce aussi. Hein. Faut pas croire. Et donc il préférait Hillary. Il avait l'air de dire, ben bah, on l'aurait soutenu. Hein. Allez-y, les électeurs. Donc, eh bien, ils se sont aussi trompés, hein. Tous trompés, l'ensemble des médias. Des journaux, des fins les plus subtils politologues se sont mis la trompe dans l'œil. Alors ça c'est une chose aussi pour voir les limites évidemment de la subversion de certains journaux. Hein, ça on le sait, c'est pas une nouveauté depuis longtemps. Là aussi ils font un jeu de mots qui a été fait dans cette émission la semaine dernière, hein, mais c'est de bonne guerre comme on dit. 22 revla la COP, hein, puisque je vous ai dit à Marrakech que c'est la COP 22. Hein, 22 là, la COP, et une auditrice nous disait que pendant ce temps-là, bon, il y avait un article de Nicolino dans le dernier Charlie Hebdo, il fait plutôt une rubrique écolo, hein, dans le bon sens du terme, hein, puisque là aussi on peut l'interpréter autrement quand on voit l'élection de Monsieur Jadot, pitoyable, hein, ces écolos de marché, ces écolos de gouvernement, et évidemment qui sont là aussi pour faire illusion. Pour vous tromper, hein, aussi, hein, tous ces petits partis trompeurs. Et donc, pour la COP 22, eh bien, Nicolino rappelle que bah, pour le Maroc, ça sert de poubelle, hein, avec l'affaire qu'il y avait eu la semaine dernière d'un pauvre malheureux qui avait été broyé dans une benne à ordures. 35 000 tonnes, elle m'a dit, à vérifier les chiffres de déchets au Maroc, hein, pour la France, rien que ça. L'Italie aussi, et donc l'accueil de la COP 22 allait aussi accueillir les déchets. Alors je lui ai dit aussi les autres déchets, il y en a, vous savez cela, pour de la bourgeoisie, qui vont se bronzer le cul donc à Marrakech, hein, au Maroc, qui ont tout le pognon, et qui sont irrécupérables. Hein. On pourra rien en faire des déchets, il me semble, politiciens. C'est un problème, et donc certains chercheurs essaient de voir, ça fait bien longtemps, hein, comment s'en débarrasser et comment les mettre hors d'état de nuire. Alors les petites nouvelles aussi, qui n'en sont des grandes, hein, le polémique, vous savez, autour du nouveau méga-fichier, hein, le TESS, donc à quel titre, c'est le moment de le dire, qui veut dire titre électronique sécurisé. Alors si c'est des titres électroniques sécurisés, et c'est rien d'autre que de mettre toutes les informations, la biométrie, hein, il y aura ça justement dans ce nouveau fichier, pour pouvoir évidemment vous protéger. Alors bah il n'y a pas eu de levée de bouclier, puisque ça a été fait un peu en catimini, hein, par le ministre Cazeneuve. Eh bien il dit qu'il est prêt à recevoir tout le monde pour expliquer le bien fondé, hein, de ce fichier pour vous protéger, ce fichier TESS de l'ensemble, souriez, vous êtes fiché, des 65 millions d'électeurs potentiels, enfin non, sans compter évidemment les autres, qui seront dans d'autres pays, mais pour rigoler à peu près, ça fait à peu près, c'est le compte, hein, et il a assuré, parce que ça fait toujours rire quand un ministre ne dit que la vérité, que la création du fichier s'est faite dans la transparence. Alors la création s'est faite dans la transparence, mais je continue, mais l'application se fera dans la plus grande opacité. Alors, comme petite nouvelle aussi pour nous faire rire, vous savez que les religions, le côté néfaste des religions, sans évoquer le fait d'avoir fermé des mosquées, hein, il y en a quatre qui ont été bouclées. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi pour le test, eh bien, ça va être justement lancé, hein, ça a été déjà lancé, on attend l'atterrissage, dans les Yvelines, hein, où j'ai la chance de pouvoir y être de temps en temps. Et donc, bah là-bas, oui, il y a plusieurs tentatives, justement, de modernité terrifiante, du genre, Elancourt, hein, en particulier. Donc là, c'est l'école du futur, l'école numérique, ou le commissariat du futur. Et donc, ça va être le fichier du futur. Hein, et donc, ils vont tester le test, le titre électronique sécurisé dans les Yvelines. Alors, petite information, oui, je vous parlais de fermeture des mosquées, de certaines mosquées, des boutiques religieuses, hein, qui sont là, évidemment, pour obscurcir, pour abrutir, qui sont là, comme toutes les boutiques religieuses, pour faire de vous, évidemment, des créatures, hein. Comme disait Stirner, donc toute la société emploie, les systèmes politiciens s'emploient pour faire de toi et les religions une créature, et essaie de devenir un créateur, essaie de t'émanciper, et ça doit se faire aussi, puisque les dernières nouvelles des évêques, hein, je vous en ai donné déjà pour le McDo, hein, je vous ai dit qu'il va s'installer au Vatican, donc avec des hosties, ça va être une spécialité McDo à l'hostie, et les évêques demandent pardon. Là encore, le redoublement du crime, comme nous disait Spinoza, pour un long silence coupable. Les évêques de France ont demandé pardon lundi 7 novembre pour le trop long silence coupable de l'Église face aux abus sexuels commis par les prêtres. Nous n'avons pas assez écouté ces victimes et manqué de courage pour prendre les mesures qui s'imposaient, déclare le cardinal André 23. Alors je vous l'ai dit déjà, 23, c'était un pauvre gars qui s'appelait Armand, André 23, c'est pour ça qu'il porte le nom 23, qui avait pas de papa, qui avait pas de maman, sa famille, hein, de l'assistance publique, et donc il s'appelle André 23, un pauvre gars qui avait pas de maman, qui avait pas de papa, 23, v'là la cope, hein, après celle, elle a 22, alors, je l'ai déjà dit, mais je vous le rappelle, hein, ça part d'une bonne intention pour les évêques, hein, qu'ils cherchent le sexe des anges dans la culotte des petits-enfants, dans la culotte des enfants de cœur, et on peut pas leur en vouloir, parce que, vous savez l'adage, quand même, hein, je terminerai par ça, eh bien, quand on dit l'habit ne fait pas le moine, eh bien, en tout cas, on pourrait dire, pour ce qui concerne ces évêques et ces prêtres, que l'habit fait le moine. Voilà, vous êtes sur Chronique Hebdo, on finit par une grossièreté, vous le savez bien, par une vulgarité, et c'était pour être raccord, comme on dit, pour être raccord avec ce qui vient de se passer au Stett, et on peut dire qu'on s'en fout un peu, mais que, je vous l'ai dit au début de cette émission, les conséquences évidemment que ça peut avoir, toute élection, hein, c'est pas le Trump ou la Clinton, c'est toute élection évidemment qui est une atteinte, hein, c'est un petit peu moins bien pour l'ensemble des sociétés, et quand est-ce qu'elles pourront comprendre, puisque évidemment vous savez tous les médias ont le même catéchisme, hein, disent la même chose, hein, je vous l'ai dit au début de cette émission, qui pourront dire autrement que de l'abstention ou que les élections, quand ce sera une votation qui sera réelle pour des représentants qui sont à mandat évidemment impératif, hein, puisque c'est mandat non impératif, et vous savez, dans la Constitution française, après, une fois élu, on fait ce que l'on veut, mandat impératif, on pourrait peut-être aborder cette question autrement. Tant que ce sera comme ça, eh bien, ce sera un désastre pour l'ensemble des population. Alors je ne sais pas si on pourrait reprendre avant de quitter, donc de terminer cette émission, vous remettre un petit peu de discussion, conversation qui se passe actuellement sur l'ensemble des médias et en particulier aux États-Unis. Voilà, Chronique Hebdo, c'est terminé. À la semaine prochaine. Salut.